Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg en votre compagnie, 17h30 à Dakar et Bententi, 18h30 à Niamey. Bienvenue dans la première édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, 20 femmes ont péri au Sénégal lors du naufrage d'une embarcation. Insécurité dans le nord du Mali, la Croix-Rouge suspend ses activités à Kidal. Les États-Unis entament demain mercredi le retrait de leurs forces spéciales en Centrafrique. Et puis ne manquez pas le reportage de Nicolas Pinault, notre envoyé spécial au Niger, à Guimguimi, ville épargnée par Boko Haram.
Pour le moment, c'est calme. Les BH n'ont jamais pu pénétrer dans notre ville pour nous faire du mal.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, au Sénégal, 20 femmes ont péri dans le naufrage d'une embarcation. Le drame a eu lieu au large du village de Bententi, situé dans le département de Foudioune, à 200 km de Dakar. Les précisions de notre correspondant Sédina Abou Gueye.
Une pirogue ayant à son bord 60 femmes a chaviré au large des îles du Saloum ce lundi en début de soirée. Dans un premier temps, 17 corps sans vie ont été repêchés, 2 portés disparus et 41 blessés graves dénombrés, dont 2 femmes enceintes. Les recherches ont été suspendues dans la nuit d'hier à cause de l'obscurité, de l'absence de moyens et du niveau d'agitation élevé de la mer. À leur reprise ce mardi matin, elles ont débouché sur la découverte de 2 autres corps sans vie. Au même moment, l'une des femmes enceintes rescapée du naufrage a succombé à ses blessures, portant le bilan macabre à 20 morts. Ces femmes, qui revenaient d'une récolte d'huîtres, ont été surpris par un vent violent qui a fait chavirer leur embarcation. La brusque montée du niveau de la mer et la mauvaise météo seraient à l'origine du drame. Les victimes, issues des îles du Saloum, s'adonnaient exclusivement au commerce halieutique. Sédina Abagueye, à Dakar, pour VOA Afrique.
Au Mali, le CICR a suspendu temporairement ses activités dans la région de Kidal après le plus récent cambriolage dont a été victime son unité installée dans la ville de Kidal. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Cela fait 3 ans que la région de Kidal échappe à tout contrôle du gouvernement malien. Malgré cette situation, certaines ONG travaillent dans cette région, non sans peine. C'est ainsi que le lundi 24 avril 2017, la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR à Kidal a été cambriolée par des individus vers 4h du matin. Face à cette situation d'insécurité, la Croix-Rouge a décidé de suspendre temporairement ses activités dans la région de Kidal jusqu'à nouvelle ordre. Considérant qu'il s'agit du deuxième cambriolage en moins de 3 mois, nous pensons qu'il s'agit d'un problème général de sécurité dans l'environnement de Kidal. Décision a donc été prise de suspendre temporairement toutes les activités de la sous-délégation de Kidal. Cette décision ne touche pas les activités urgentes, notamment à l'hôpital de Kidal, car une suspension à ce niveau aurait de graves conséquences humanitaires, a déclaré Jean-Nicolas Marty, chef de la délégation de CICR au Mali. Malheureusement, le CICR demeure l'une des rares organisations présentes sur la place et à fournir une assistance humanitaire dans la région de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les États-Unis entament demain, mercredi, le retrait de leurs forces spéciales déployées dans l'est de la Centrafrique depuis 2011 pour combattre la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, de Joseph Kony. Bagassi Koura, pour les Américains, c'est la fin d'une traque.
Le temps est venu de passer à autre chose, étant donné que l'organisation, la LRA, est vraiment en train de se battre pour sa survie, a déclaré le général Thomas Waldhauser à la tête d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse téléphonique la semaine dernière. La LRA compte aujourd'hui 100 membres actifs contre plusieurs milliers il y a une dizaine d'années, selon Africom, présent en soutien des forces africaines dans l'est de la Centrafrique depuis 2011, avec une centaine de militaires des forces spéciales américaines, suivis en 2014 de 150 hommes de l'armée de l'air. Cette opération a été un succès assez important, a déclaré l'ambassadeur américain en Centrafrique début avril. Pourtant, le leader de la LRA reste introuvable. Joseph Kony est recherché pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, où est actuellement jugé Domenico Ongwen, l'un de ses anciens bras droits.
Pour faire face à la crise dans le Kasaï, les Nations Unies cherchent des fonds. L'ONU a indiqué aujourd'hui à Kinshasa avoir besoin de 64,5 millions de dollars en urgence pour faire face à la crise humanitaire née des violences meurtrières entre une rébellion et les forces de sécurité au Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo. Ces fonds serviront à répondre aux besoins urgents et multiples de 731 000 personnes durant les 6 prochains mois. Au Nigeria, une cour de justice a ordonné une nouvelle fois aujourd'hui la libération sous caution de Nnamdi Kanu, le principal leader indépendantiste biafrais, incarcéré depuis octobre 2015 et toujours en attente de son procès. La juge Binta Nyako de la Haute Cour fédérale d'Abuja est au moins la troisième juge à ordonner la libération sous caution de Nnamdi Kanu, cette fois pour des raisons de santé. Cette décision est particulièrement sensible à un mois du cinquantenaire de la déclaration de sécession du Biafra qui avait entraîné le pays dans une terrible guerre civile. C'est ce jeudi qu'on sera le verdict du procès en appel d'Issenabré, tenu en janvier devant un tribunal spécial africain. L'ex-président tchadien, condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité, sera donc définitivement fixé sur son sort ce jeudi. Ici aux États-Unis, le militant anti-esclavagiste mauritanien Biramda Abed reçoit ce soir à New York le prix du magazine américain Time, qui l'a sélectionné parmi les personnalités les plus influentes du monde pour l'année 2017. Leader de l'initiative de la résurgence du mouvement abolitionniste ou IRA Mauritanie, il mène une lutte acharnée pour l'éradication de l'esclavage dans son pays. Timothée Donangmaï a joint Biramda Abed à New York.
Mon sentiment, c'est le sentiment de la satisfaction face à la reconnaissance accrue dont nous gratifie la communauté internationale, toutes tendances confondues. Que ce soit les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales, les gouvernements et maintenant encore la presse. Je pense que sur la bataille de légitimité que nous livre le pouvoir en Mauritanie, c'est encore des victoires gagnées. Voilà, et je pense que ça ne fait que renforcer le leadership de l'IRA Mauritanie en matière de droits de l'homme.
C'était Biramda Abed, leader de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, l'IRA Mauritanie. Il était joint à New York. La France a fait part aujourd'hui de sa préoccupation après la condamnation à 10 ans de prison ferme du journaliste Ahmed Abba, correspondant de RFI au Cameroun, pour, je les cite, « non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme ». Ahmed Abba, qui clame son innocence, a été condamné lundi par un tribunal militaire de Yaoundé et ses avocats ont fait appel. En Tunisie, le Parlement a assoupli une loi très sévère sur l'usage des stupéfiants. Plusieurs organisations de la société civile avaient milité dans ce sens, dénonçant le coût exorbitant, selon leurs termes, pour les nombreux jeunes jetés en prison pour un joint. Un amendement permettant aux magistrats de prendre en compte des circonstances atténuantes et donc d'éviter dans certains cas la prison à des accusés a été adopté par 133 élus sur les 140 présents dans l'hémicycle. Et puis au Kenya, au moins 26 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées dans un accident de la route impliquant un bus et un camion dans la nuit de lundi à mardi sur l'autoroute entre Nairobi et Mombasa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde. Ici, aux États-Unis, le mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump est au cœur des négociations budgétaires au Congrès américain, où l'opposition démocrate refuse absolument de voter le moindre dollar pour le chantier. Le Congrès doit adopter impérativement un budget avant vendredi prochain, le 28 avril à minuit. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé mardi de rouvrir sa procédure de suivi à l'égard de la Turquie, un retour en arrière inédit pour un État membre de l'Institut paneuropéenne. La Turquie avait déjà fait l'objet de cette procédure de suivi de 1996 à 2004. Cette assemblée explique attendre notamment des autorités turques qu'elle lève l'état d'urgence aussitôt que possible, qu'elle libère tous les parlementaires et les journalistes placés en détention dans l'attente de leur procès, qu'elle veille à ce que les procès respectent les garanties d'une procédure régulière et qu'elle prenne d'urgence des mesures pour restaurer la liberté d'expression et de la presse. À Mossoul, en Irak, des membres du groupe État islamique se faisant passer pour des forces de sécurité irakiennes ont exécuté au moins 15 civils dans le centre-ville. Vêtus d'uniformes de la police, des djihadistes sont entrés hier dans des secteurs de la vieille ville et selon des témoignages, ils ont tiré sur des femmes et des enfants qui les accueillaient avec joie. Et puis pour finir, l'Iran et les grandes puissances se sont réunis aujourd'hui à Vienne pour faire le point sur l'accord nucléaire conclu en 2015 sur fond d'incertitudes croissantes quant aux suites que le président américain Donald Trump entend donner à ce texte. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la Minute Éco, présentée ce soir par Chérubin Gaby Dorsil.
Dans une rencontre lundi à Abidjan, nouveau siège de l'Organisation internationale du cacao, les principaux producteurs mondiaux de fèves de cacao se sont engagés à coordonner leur volume et à trouver de nouveaux débouchés pour les ventes. Selon Jeune Afrique, ils ont adopté 6 résolutions. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo ont pris l'engagement d'augmenter leur influence sur les cours pour éviter les conséquences néfastes. Le Soudan du Sud va recevoir 106 millions de dollars de la Banque mondiale et de la BAD, la Banque africaine de développement, pour financer l'importation de produits alimentaires et la construction d'une route menant vers le Kenya. Au moins 2 régions du pays ont été déclarées en état de famine. Les produits alimentaires seront importés principalement de la Tanzanie et de l'Ouganda. Comme le rappelle l'agence Reuters, l'économie sud-soudanaise a régressé de près de 20% l'an dernier et le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 3,5% cette année. La justice burkinabé a lancé une opération visant des auteurs présumés de blanchiment d'argent et d'autres crimes économiques. Par exemple, le richissime homme d'affaires Inoussa Kanazoé, magnat de la cimenterie et vice-président à la Chambre de commerce, a été inculpé notamment de blanchiment de capitaux, fraude fiscale et abus de confiance. 5 autres personnes arrêtées en même temps que lui et inculpées des mêmes infractions ont été écrouées lundi dernier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. On reproche aux accusés d'avoir mis sur le marché du ciment avarié ou du ciment n'ayant pas été produit par la société, mais reconditionné dans les sacs de la société.
Ensuite, la page sport, présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
On débute par du foot, bien sûr. Première destination, l'Angleterre. Quel est le programme des matchs en retard?
Demain à 18h45, temps universel, Arsenal tente un comeback à domicile dans la course à l'Europe face à Leicester, qui n'a plus rien à jouer ce printemps. L'occasion est belle au moment où les deux Manchester qui devancent Arsenal s'affrontent jeudi dans leur derby. De son côté, Tottenham veut encore y croire. Les Spurs, battus lourdement à Wembley samedi, ont perdu la bataille des esprits dans le duel à distance qui les oppose au premier du championnat. Demain, donc, à 19h, temps universel, à Crystal Palace, Tottenham va tenter de continuer à grignoter son retard sur le leader Chelsea.
En Coupe d'Allemagne, la tension se porte surtout sur la demi-finale entre Dortmund et le Bayern.
C'est la 4e confrontation de la saison entre les deux poids lourds du football allemand. La rencontre se joue sur un seul match avec prolongation et tir au but éventuel. Pour le club bavarois, c'est la victoire en vue de sauver la saison ou la crise, car Dortmund peut pourrir la saison du Bayern en cas de défaite. La claque des deux rivaux en Ligue des Champions a laissé un goût amer en gagnant rencontrera en finale à Berlin le 27 mai Mönchengladbach ou Frankfurt qui s'affrontent ce soir dans l'autre demi-finale.
Et puis en Espagne, on parle de la fin de saison compromise pour Bale.
L'attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, pourrait manquer le reste de la saison en raison de la nouvelle blessure contractée dimanche contre Barcelone en Clasico. Le Gallois a été contraint de sortir dimanche après seulement 38 minutes de jeu. Cela priverait Bale des deux demi-finales de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid et ses six derniers matchs de championnat. Mais Zidane reste optimiste.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. Au Burkina Faso, le richissime homme d'affaires Inoussa Kanzoé, PDG de Canis International et de la cimenterie Simfaso, a été mis aux arrêts et inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, dont le faux en écriture, la tromperie du consommateur. Il risque donc une peine d'emprisonnement de 30 ans et une amende de 11 millions de francs CFA. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wonogo.
Le lièvre a été levé par notre confrère le courrier confidentiel et la justice l'a poursuivi. Suivant, Mme Maïsa Sérémé, procureure générale près le tribunal de grande instance de Ouagadougou sur les faits d'accusation.
Nous avons saisi le commandant de la compagnie de gendarmerie du Kadiogo afin de procéder à une enquête sur la base des infractions de faux et usage de faux, d'abus de confiance aggravé, de tromperie de consommateurs, de fraude fiscale et toute autre infraction que l'enquête viendrait à révéler et de nous dresser le procès verbal en arrestation si les faits étaient avérés. C'est ainsi, au vu d'un certain nombre d'éléments à charge, M. Inoussa Kanazoué et certains de ses collaborateurs ont été mis aux arrêts et gardés à vue le mercredi 19 avril 2017.
Les partisans et employés de Inoussa Kanazoué se sont mobilisés pour exiger sa libération. Mais pour le directeur de l'enquête, cette pression est moindre. Et pourquoi? On écoute le capitaine Youmandia Lompo.
S'agissant des pressions que nous avons eu à subir, ne vous attendez certainement pas à ce que je vous dise que c'est le politique qui a influencé, c'est la hiérarchie qui a influencé ou le judiciaire. Loin de là. Mais le monde économique a multiplié les tentatives. Nous sommes partis avec des propositions de plusieurs centaines de millions et nous avons même passé le cap du milliard. C'est vous dire que si nous avions cédé, ce soir je serais multimilliardaire. Voilà. Mais en bon intègre, je pense que nous ne mangerons pas de ce pain.
Les partisans de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoué avaient promis faire un blocus des artères de la capitale burkinabé Ouagadougou et fermer le marché central Rodoukou. Mais quand nous y avons fait un tour, pas de blocage par les camions de la cimenterie et le marché est bien ouvert. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer votre nouveau rendez-vous, Le Monde au Féminin, également diffusé en direct sur Facebook à 19h, temps universel ce soir. Ce mardi, nous tenterons de savoir quel est le rôle et la place de la femme dans la médiation des conflits fonciers. Grâce à l'expertise d'Anaïs Capu, responsable de programme pour l'Afrique centrale, orientale et australe à Search for Common Ground. Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h, temps universel sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Direction le Niger à présent. Alors que la force de Boko Haram semble amoindrie ces derniers mois, il y a certaines parties du territoire nigérien qui ont été épargnées par l'insurrection djihadiste. C'est le cas de Gimmi Ousserandeu, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pino.
Tango, donc il faut immobiliser le véhicule là et vous procédez comme d'habitude à la fouille, donc minutieusement. Vous rendez compte à l'issue.
Le soleil est levé depuis peu sur Ngigmi, mais cette patrouille de l'armée nigérienne est déjà à pied d'œuvre aux aurores.
Marouane.
À sa tête, le lieutenant Ismaël et ses hommes arrêtent un véhicule pour vérifier l'identité des passagers et engager la conversation. Ce genre de contact avec la population est essentiel pour recueillir des renseignements, assure le jeune gradé nigérien.
Avant d'aborder les localités, le plus souvent, les premières personnes sur lesquelles on tombe, on essaie d'établir le contact avec elles, de les rassurer, de demander certains détails.
certains renseignements.
Ici, pas de risque de tomber nez à nez avec Boko Haram, puisque le groupe djihadiste a plutôt épargné les alentours de Nguingmi depuis le début de l'insurrection. Les populations collaborent avec l'armée, elles ont mis en place des comités de vigilance, comme l'explique le chef de canton de Nguingmi, Maina Inoussamanga.
Notre département, pour le moment, c'est calme. Les BH n'ont jamais pu pénétrer dans notre ville pour nous faire du mal. Vraiment, dans la région, vraiment, le département le plus calme, c'est le département de Nguingmi. Bon, grâce à nos prières et puis avec la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les différents chefs de village qui sont en brousse, les éleveurs, tout le monde en train de communiquer avec les forces de défense et de sécurité pour donner les renseignements.
Même son de cloche de Boulama Ali Abdou, VOA Afrique a rencontré ce chef de village aux alentours de Nguingmi.
L'armée nous sert de bouclier contre les ennemis grâce aux militaires. On vit en harmonie avec nos familles ici. Depuis qu'on est ici, on n'a eu aucun problème. Les patrouilles de l'armée nous rassurent.
Ici, les déplacés nigériens ont en grande partie dû évacuer les îles du lac Tchad. Beaucoup ne demandent qu'à retourner chez eux pour pêcher ou faire de l'élevage comme avant. Boula Mamadou, du site de déplacés de Kimigana.
L'assistance alimentaire qu'on nous donne, c'est pour un mois. Il y a même des gens qui n'ont rien. Avec les familles que nous avons parfois, c'est difficile de joindre les deux bouts.
Loin des tensions et des attaques qui ont eu lieu le long de la frontière avec le Nigeria, entre Difa et Bosso, Nguingmi espère garder longtemps sa quiétude. À 40 km de là, les opérations de la force mixte se poursuivent dans les îles du lac Tchad pour nettoyer les derniers sanctuaires de Boko Haram. Depuis Nguingmi au Niger, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, c'est ce mardi qu'a été inauguré à Abidjan le nouveau siège de l'Organisation internationale du cacao, l'ICO. Le siège était basé à Londres depuis 1973. Témoin de cette cérémonie d'inauguration, notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Premier producteur mondial de cacao avec 1 700 000 tonnes, soit 40% de l'offre mondiale, quoi donc de plus normal pour la Côte d'Ivoire que d'abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao? Un siège inauguré ce mardi à Abidjan par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et en présence de délégations venues d'une cinquantaine de pays producteurs et importateurs de cacao. Cette délocalisation du siège de l'ICCO de Londres à Abidjan devrait permettre à l'administration cacaoyère d'être plus proche des producteurs et de mieux appréhender les réalités du terrain. Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'ICCO.
À travers notre implantation dans un pays producteur, nous voulons offrir un meilleur accès à l'information sur le monde du cacao et relever les opportunités qui existent dont les pays producteurs pourraient bénéficier. Nous comptons y ajouter la formation des décideurs dans le domaine du cacao, qu'ils viennent de la partie gouvernementale ou du secteur privé, qu'ils soient de la presse, des milieux universitaires, que ce soit des étudiants ou des élèves. Nous voulons contribuer au renforcement des connaissances des administrateurs de projets dans le domaine du cacao. Nous voulons aider à former des financiers du cacao, des statisticiens du cacao, des économistes du cacao, des économétriciens du cacao, et j'en passe, à partir d'Abidjan.
L'inauguration du nouveau siège de l'ICCO intervient dans un contexte difficile pour le cacao. Les cours sont en chute sur le marché international, 30% de baisse depuis 6 mois. Une situation dramatique pour plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire qui vient d'annoncer une baisse de 10% de ses dépenses publiques. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan espère que la présence du siège à Abidjan permettra de trouver une réponse aux difficultés de la filière.
La Côte d'Ivoire est aujourd'hui convaincue que la présence de l'ICCO à Abidjan offrira des occasions de mieux appréhender la réalité du terrain et mieux apprécier les attentes essentielles des producteurs dans la perspective des décisions adaptées et des mesures concrètes en vue de l'émergence d'une chaîne de valeur profitable à tous. Les équipes de l'ICCO devront intégrer cette ambition et écrire ainsi de nouvelles lettres de noblesse de notre organisation commune.
L'Organisation internationale du cacao a été créée en 1973 sous les auspices de l'ONU. Elle compte 51 pays membres, dont 21 exportateurs et 30 importateurs. La délocalisation du siège à Abidjan est donc un tournant dans la vie de l'organisation. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Bénin, le taux de grossesse des collégiennes ou lycéennes a augmenté au grand désarroi des organisations de la société civile qui multiplient les cours de sensibilisation pour dénoncer ce phénomène. Les grossesses en milieu scolaire restent une terrible épreuve, malgré la loi qui autorise la jeune fille enceinte à poursuivre sa scolarité. Qu'est-ce qui explique le phénomène dans les lycées et collèges du Bénin ? Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé, nous en dit davantage.
Elsa est aujourd'hui vendeuse de pain dans l'un des plus grands marchés du Bénin, le marché d'Antokpa. Elle aurait voulu être cadre de l'administration publique. À 32 ans, elle est mère d'une fille de 18 ans. Elle avait eu à 14 ans alors qu'elle se préparait pour décrocher son certificat d'études primaires.
Si un homme vous aime vraiment, il va prendre la patience. C'est pas quand vous faites l'amour avec un homme que ça veut dire qu'il vous aime. C'est facile parce qu'il en aura assez un jour, il va vous jeter comme un torchon. Donc prenez la peine de vivre vraiment la relation et de laisser au moins de côté ses paramètres passionnels.
Comme Elsa, bien de jeunes filles sont forcées à une maternité précoce malgré les nombreux efforts consentis par l'ensemble des acteurs du système éducatif et même au-delà. Selon Éducation, par exemple, on dénombre chaque année une moyenne de 2000 grossesses dans tout le Bénin, avec assez d'enseignants en prison pour harcèlement sexuel, viol ou tentative d'avortement sur élève. Monsieur Aristide Gbekon est directeur d'un collège de Cotonou. Pour lui, les filles ont une part plus grande de responsabilité dans cette affaire.
Les filles d'aujourd'hui à l'école n'ont plus autre vocation que de chercher à se faire plaire. C'est ça qui fait qu'elles s'adonnent tellement à la beauté, à l'esthétique. Les coiffures extravagantes, les tenues kaki qu'on appelle sexy ou les perles se font découvrir facilement. Ces filles, dans leur démarche, sont simplement provocatrices.
Pour Sandra, journaliste de profession, à côté de l'éducation, les filles doivent pouvoir cheminer avec les valeurs qui le sont inculqués.
On a beau être en milieu scolaire ou pas, la plupart du temps, lorsqu'on n'a pas une éducation assise sur certaines valeurs, il va de soi qu'on peut quitter la vision qui a été établie par rapport à ce que nous devons faire. À côté de l'éducation, il y a également l'influence, parce que le tout, ce n'est pas de dire des interdits aux enfants, mais c'est de forger leur mental de telle sorte que, même quand les parents ne sont pas là, qu'elles puissent être habitées par les valeurs qui ont été promues depuis la base.
Afin de freiner l'élan du phénomène, il est interdit aux filles de se tresser, de porter des tenues sexy et même de venir à l'école avec des téléphones. Le psychopédagogue Raoul Arlin y voit plutôt une naïveté de la part des jeunes filles qui veulent plus paraître qu'être.
La solidarité mécanique a disparu et on a affaire à une solidarité plus ou moins organique où chacun se dit, si je me mets à la disposition d'une jeune fille, ça veut dire que j'attends quelque chose de cette jeune fille-là et elle-même renégocie cette solidarité autrement. Elle va mettre son sexe, son charme à disposition pour avoir accès à ça parce qu'elle a envie de s'émanciper, elle a envie d'être heureuse, elle a envie de vivre mieux.
Doris Dietongoudou fait du coaching scolaire. Elle pense que mettre à la portée des acteurs impliqués dans cette histoire, les rudiments nécessaires paraît primordial, si tant est-il qu'on tient à faire reculer les frontières du mal. C'est d'ailleurs bien inscrit dans son programme de coach scolaire.
À travers le coaching, nous montrons aux adolescents que même à cette étape de la vie, il serait plus judicieux pour eux de prendre leur temps, d'avoir l'information juste et de penser plus à leur avenir qu'au plaisir immédiat. Aussi, avec les parents, nous essayons de voir comment est-ce qu'ils peuvent se servir des centres d'intérêt de leurs enfants pour mieux les suivre.
Aujourd'hui, quand on s'en tient aux statistiques, au nombre de filles à peine sorties du berceau et qui se retrouvent enceintes, une thérapie de choc s'impose pour conjurer le mal. Et même s'il faut une volonté politique pour relancer le débat, il est important que les parents redeviennent complices et amis de leurs enfants au lieu d'être ces éternels juges qui ont laissé la rue prendre le dessus. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette émission. Merci de votre fidélité à la mise en onde. Joselle Morissin à la console. Richard Smith Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Restez avec nous tout de suite, à votre avis, présenté par John Linden.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.